Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode consacré aux associations dans le domaine de la sécurité. Alors pour discuter de ce sujet, nous avons l'expert du domaine, car il est membre de plus de 30 associations. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'Hervé Schauer.
Bonjour.
Avec lui, Jean-François Audenard.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Hervé, toutes ces associations, elles servent à quoi ?
Ben, une association, ça sert à s'associer, donc à se réunir, à se rencontrer, à partager en commun des idées, des objectifs. Ça peut être se présenter des choses, organiser une conférence, se rencontrer régulièrement. Une association, ça sert aussi à élire un conseil d'administration avec un secrétaire, un trésorier, donc un compte en banque, donc éventuellement pouvoir dépenser de l'argent en commun. Une association, c'est ce qui structure la société moderne d'aujourd'hui, y compris dans le monde de la SSI.
Ouais, ça c'est un peu une vision idyllique de la chose. Il y a quand même plein d'associations qui sont juste des montages fiscaux, mais qui sont orchestrées derrière par des grandes institutions.
Non, mais pas en sécurité.
Oui, on va rester dans le domaine de la sécurité.
Même dans le domaine de la sécurité, tu as des structures qui sont organisées en associatif, mais qui servent des agendas. Alors le problème, c'est que si on peut citer aucun nom, ça va être un peu compliqué, mais...
Moi, je peux citer toutes les associations dont je suis membre, donc il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je suis membre de 32 associations, et même peut-être un peu plus, 32, c'est celles qui sont affichées publiquement, et toutes ont une utilité, sinon je ne serais pas membre.
Si je vais sur la page web de ton site, tu dis par exemple que la FNOR est une structure commerciale concurrente de ton activité et que tu es quand même membre de leur association.
Alors la FNOR, c'est vrai que c'est une vraie difficulté parce que d'un côté, c'est une association reconnue d'utilité publique qui est financée par vos impôts et par un subside qui est voté chaque année par l'Assemblée et le Sénat. Mais de l'autre côté, au-delà de son monopole de gestion de la normalisation en France, pour le compte de la France, la FNOR, malheureusement, a aussi créé un groupe industriel et commercial qui utilise la même marque que celle de l'association et qui est là-dedans, vous allez trouver une société de formation, une société d'édition, une société de certification. Et toutes ces sociétés sont évidemment en concurrence directe avec des éditeurs comme Duno ou Erol, avec des sociétés de certification comme LSTI, BSI ou LRQA, avec des sociétés de formation comme celle que je représente ici et tous mes concurrents. Donc effectivement, ce partage de marques entre une association d'un côté et un groupe commercial de l'autre est un vrai problème, et ce problème se retrouve pour des raisons historiques dans l'ensemble des pays d'Europe. Voilà, ça c'est un petit problème. Enfin, c'est anecdotique, la FNOR, ça reste une association où les gens se réunissent pour décider de normes d'un commun accord dans l'intérêt de la société.
Bon, après, en dehors de la FNOR, il y a quand même une pléthore d'associations un peu dans tous les domaines de la sécurité, par des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, qui font de la radio, qui font des présentations, qui font des conférences, et il y a quand même beaucoup.
Il y a l'association, je dirais, historique, la grosse association, celle qui a des locaux, des salariés, un gros budget, c'est le CLUSIF. Le CLUSIF, c'est très ancien, ça a déjà fêté ses 30 ans, donc c'est l'esprit d'échange, l'association qui regroupe absolument tout le secteur de la sécurité, qui va avoir plein de groupes de travail dans tous les domaines, donc chacun peut créer son groupe au CLUSIF. Donc ça va aller de choses très techniques à des choses pas du tout techniques, même la sécurité physique. Voilà, le CLUSIF, c'est un peu la grosse association. Puis à côté, on trouve tout un tas d'associations, soit qui vont regrouper des populations, comme uniquement des RSSI, soit qui vont regrouper les gens qui s'intéressent à un sujet en particulier. Donc, par exemple, le Club 27001, c'est les gens qui utilisent les normes 27001. Et puis des associations avec des orientations. Effectivement, soit je veux organiser une conférence, le STIC, c'est aussi une association, et ça organise la conférence STIC. Et puis des associations à orientation. Par exemple, l'OCIR, c'est une association à orientation technique où les gens aiment à partager la technique de la sécurité, savoir comment ça marche, et qui va faire à la fois des conférences, des réunions mensuelles dans plusieurs villes de France, avec des afterworks, etc. Vous avez des associations régionales, donc en région, on va trouver des associations dans chaque région. Alors, il y a même certaines régions qui se payent le luxe d'avoir plusieurs associations dans la même région. Donc là, on comprend. Bah, disons que en région, on peut simplifier les choses, je m'excuse de cette simplification, mais on peut simplifier les choses souvent dans une région si la région se paye le luxe d'avoir 2-3 prestataires locaux en sécurité. C'est vrai qu'on va très vite trouver autant d'associations que de prestataires locaux importants en sécurité, chaque prestataire local étant plus ou moins lié à une des associations locales. Non mais, je veux dire, ça se retrouve, hein, que vous alliez à Marseille, à Toulouse, enfin dans toutes ces villes un peu importantes, c'est exactement le type de phénomène qu'on a tendance à retrouver, y compris d'ailleurs au travers d'associations nationales qui ont des groupes régionaux. L'OCIR est une association nationale avec des groupes régionaux, des groupes qui se réunissent en ville de province. C'est pareil pour le club 27 Milan. Bon, on trouve aussi ce type de phénomène. Non, ça montre que les gens ont besoin de se réunir pour parler de la sécurité, partager entre eux. On doit apprendre de ses pairs. Ça fait partie des bonnes mesures de sécurité. Donc, les associations, c'est très, très bon.
Enfin, les associations, globalement, c'est quand même pas Heidiland. Je veux dire... Tu parlais d'inclusif. Une association, c'est souvent défini par son fondateur. Alors, soit une personne morale, soit carrément une personne physique. Souvent, l'association, elle dépend entièrement de la personnalité, du charisme de son président. Et il y a plein d'histoires d'associations qui se déchirent, de forques, de reforques.
Pas inclusif, hein. Pas dans les associations auxquelles moi je participe. Occlusif, effectivement, il y a eu des dizaines de présidents parce que c'est une vieille association, mais il n'y a pas eu de scission ou de quoi que ce soit. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui ont créé d'autres associations et qui ont choisi de ne pas y être. Mais je vais prendre des exemples. Vous avez aujourd'hui le club Ebios. Vous avez le club 27 000. On pourrait se dire. Bon, tiens, il y a une grosse association, c'est inclusif. Pourquoi il n'y a pas un groupe Ebios inclusif? Pourquoi il n'y a pas un groupe 27001 inclusif? Eh bien, parce que c'est des gens qui ont choisi d'avoir une manière de se réunir entre eux très différente. Au club Ebios, il faut être coopté par deux membres éminents du club Ebios. Donc, tu ne peux pas simplement demander à adhérer, ce qui est le cas de la majorité des associations. Voilà, il y a tout un tas de règles qui sont spécifiques. Dans des associations comme l'OCIR ou le Club 27001, il y a une gratuité des réunions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être membre de l'association pour venir aux réunions. Occlusif ne viennent aux réunions que les membres ou des gens qui sont spécialement invités pour l'occasion. Donc ce sont ces différences de culture, de fonctionnement, d'organisation qui font qu'il y a besoin de plusieurs associations, même dans un domaine unique qui est la sécurité.
Mais alors, ça répond aussi à 32 associations, Hervé.
Ah, parce qu'il y a des associations qui sont propres à certains métiers, à certains domaines. Typiquement, en tant qu'expert de justice, on va être membre de sa compagnie d'experts de justice, de la compagnie des experts de justice en informatique, Internet. Voilà. Après, il y a des associations internationales. C'est-à-dire que moi, je vais être membre à la fois d'associations françaises et puis d'associations internationales. Donc, évidemment, ça augmente le nombre. Dès qu'on participe un peu à la normalisation, on va être membre de l'I3E, de l'AITF, d'organisations de ce type-là. Après, moi j'aime bien à la fois les aspects techniques, les aspects organisationnels, j'aime bien avoir une vision globale des choses, moi j'aime bien aussi voir ce qui se fait à la marge. Par exemple, j'aime beaucoup l'aspect recherche. Donc pourquoi je suis membre de la SEE? Parce que c'est une association où on va retrouver la communauté purement recherche en sécurité informatique en France. Ça donne une autre vision des choses, ça donne des gens, alors parfois un peu déconnectés de certaines réalités, mais qui peuvent prendre le temps de faire des choses différentes. Donc moi, j'aime bien avoir cette vision-là. Moi, je participe aussi, par exemple, depuis très longtemps, à une association, le club de la continuité d'activité. Alors maintenant, vous savez, je fais un peu de continuité, mais à l'époque où j'y adhérais, j'avais aucune idée qu'un jour je ferais de la continuité. J'y suis allé simplement parce que souvent... Eh bien, le responsable sécurité devait avoir à parler au responsable continuité. Ils n'avaient pas le même vocabulaire ou, disons, les mêmes mots ne voulaient pas toujours dire la même chose. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de comprendre ces gens que je connais mal, que sont les RPCA, les responsables des plans de continuité d'activité. Et c'est pour ça que moi, j'ai aussi participé à des associations autour de l'audit informatique, autour de tous ces domaines qui ne sont pas directement la SSI, mais qui ont souvent à connaître la SSI. J'ai même été dans des associations en gestion de risque qui apparaissent pas sur la liste de mon site web pour comprendre les gens qui font de la gestion de risque globale, de la gestion de risque opérationnelle, pour voir comment pouvait se placer la gestion de risque en informatique ou en sécurité informatique ou dans sécurité de l'information dans le cadre de cette gestion de risque globale. Donc toutes les associations, vous voyez, ont un intérêt.
Ça, c'est un peu large comme... Tu connais les cas d'associations qui ont disparu?
Qui ont disparu, oui. Et dans certains cas qui ont renaît, si tu prends le chapitre français de l'ISSA, on avait fait un chapitre français de l'ISSA, bon, puis finalement, par manque de volonté des bénévoles, il a disparu. Moi, j'avais bien aimé, parce que ça permettait d'avoir accès aux autres associations européennes. L'ISSA étant une vieille association dont j'ai toujours été membre aux États-Unis, il y a des chapitres dans le monde entier. Et en Europe, ça m'a permis d'avoir des contacts en Espagne, en Pologne, en Grande-Bretagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse alémanique, que j'aurais jamais eu autrement. Et puis, bon, ça s'est arrêté. Et puis, plus récemment, il y a 2 ou 3 ans, il y a à nouveau une équipe qui a relancé un chapitre français de l'ISSA. Mais le chapitre français de l'ISSA, pendant de nombreuses années, n'existait plus. Bon, voilà, c'est un exemple d'association en sécurité qui a disparu. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'associations qui disparaissent parce que, par exemple, en province. En province, il y a eu parfois des villes où il y a eu plusieurs associations de RSSI. On n'a pas encore cité ce cas-là. Il y a des RSSI qui souhaitent être entre eux et ne pas du tout être sollicités par un offreur, par un fournisseur de prestations, de produits, de services, et donc qui font des associations uniquement entre RSSI entre eux, et tous ceux qui sont pas RSSI peuvent pas venir. Et là, moi, j'ai vu des associations qui ont existé dans certaines villes de province uniquement de RSSI, puis qui ont disparu. Bon, voilà, c'est des cas de figure qui arrivent.
Parce que l'idée de la question, c'est est-ce qu'une association disparaît quand elle ne sert plus à rien, ou est-ce que de toute façon, elle continue à survivre ad vitam aeternam? Est-ce qu'il y a une sorte de sélection naturelle dans les associations, ou est-ce que la liste des associations est destinée à grandir et...
Écoute, il y a des associations qui ont disparu et donc il y a une sélection naturelle. Il y a des associations qui existent encore sur le papier mais qui ont toutes les chances de disparaître, même si aujourd'hui elles sont toujours déclarées en préfecture. Il y a eu des associations, par exemple, de fournisseurs de services en sécurité, comme des associations des sociétés qui font des tests d'intrusion. Ben, dans ces associations, il y en a eu plusieurs. Eh ben aujourd'hui que l'État a quelque part organisé le marché en construisant la qualification PASI, ces associations sont devenues un peu caduques et aujourd'hui on n'en entend plus parler, même si elles ne se sont pas encore dissoutes. Ça, c'est une forme de sélection naturelle, un peu poussée par l'État, mais voilà.
Tu parles de la FPTI, là? Enfin, plutôt les FPTI, puisqu'il y en existait plusieurs.
Absolument.
L'associatif aussi, c'est porté par l'humain et le bénévolat, et forcément, au bout d'un moment, les gens changent de vie, peuvent avoir des enfants, arrêter de travailler, changer, donc n'ont plus le temps de s'occuper des associations, et ça peut être un aussi des vecteurs qui fait que les associations périclitent.
C'est tout l'intérêt des grosses associations, dans lesquelles il y a beaucoup de membres, des assemblées générales où il y a plein de gens qui viennent voter, et des conseils d'administration qui se renouvellent. Il y a des associations en France qui sont quand même très anciennes si on regarde leurs racines. On a déjà cité les plus de 30 ans du CLUSIF, mais regardez l'OCIR. L'OCIR, c'est 1986, on est en 2015 et ça marche très bien. Maintenant, effectivement, entre 86 et 2015, bon, je m'excuse, il n'y a que moi en commun, mais j'aurais pu disparaître, l'OCIR fonctionnerait toujours très bien. Donc, ça montre que cette association, elle répond à un besoin, elle s'est renouvelée. Hein, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui qui participent ou qui sont au conseil d'administration que ceux qui étaient il y a 10 ou 20 ans. Donc une association qui répond à un besoin, elle va continuer avec toujours des nouvelles personnes qui la font vivre.
Et est-ce que c'est à des associations de répondre à ce besoin? Donc je suis membre de l'OCIR aussi, donc là, j'ai du mal à me mettre de l'autre côté, mais pourquoi est-ce que ce sont des associations qui répondent à ce type de besoin et qui organisent ces événements, qui coordonnent les gens, qui les réunissent? Pourquoi est-ce que ce sont les associations qui font ça?
Bah, clairement, je crois qu'il y a besoin de neutralité vis-à-vis des entreprises. Je veux dire, si tu es une entreprise qui fait du test d'intrusion et que tu dis « moi je fais mon asso spécial test d'intrusion, venez tous chez moi », tous tes concurrents vont dire, bah oui, mais ça c'est un truc. Enfin, je veux dire, pardon, si tu fais pas ton asso, justement, si tu dis dans un cadre professionnel, j'organise quelque chose sur le test d'intrusion, tous tes concurrents vont voir ça comme du recrutement déguisé pour aller leur débaucher des consultants. Alors qu'aller sur un terrain associatif, c'est plus neutre. Ouais. Je veux dire, tout le monde a voix au chapitre, tu as une structure claire, tu peux accéder au compte, tu sais ce qui se passe. Quoi.
C'est des choses qui existent, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés privées qui construisent des espèces de clubs privés qui parfois coûtent très cher et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a eu d'ailleurs une entreprise qui a essayé de fédérer les gens qui sont qualifiés PASI. C'était quand même une entreprise qui, dans mon cas, est un concurrent direct, qui organisait ce club. Bon, ben voilà, moi, je me sentais pas de participer à une espèce d'association totalement contrôlée, animée, maîtrisée de bout en bout, d'une manière pas spécialement démocratique par un concurrent. Donc, j'ai pas participé. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a un groupe de travail PASI au sein de l'OCIR. Donc, si vous voulez, c'est effectivement très important ce besoin de neutralité et cette nécessité d'une structure neutre pour réunir des gens qui, par ailleurs, sur le marché, sont soit tantôt offreurs, tantôt consommateurs, soit concurrents, soit dans des milieux très différents. Entre le milieu, enfin, si on prend l'OCIR, parce que c'est un bon exemple, hein, c'est une vieille association, mais ça réunit des gens aussi bien du monde académique, de l'enseignement, de la recherche, que des gens du monde industriel, aussi bien côté RSSI qui vont acheter des prestations que sociétés de conseil qui vont vendre des prestations, que des éditeurs. Et aujourd'hui, on a fait un rapide tour de table à l'OCIR et on a eu l'exemple parfait où il y avait absolument toutes ces populations qui étaient représentées dans la réunion.
Un peu comme nos limites sécu, hein.
Qui n'est pas une association déclarée en préfecture, mais qui est une association de fait. C'est-à-dire que dès l'instant que nos limites sécu, les gens se réunissent toutes les semaines, publient un podcast et donc font une émission de radio de manière régulière, et qu'il y a quand même toujours les mêmes qui se réunissent, ça suffit à être une association de fait. Et évidemment, ça n'a pas de structure juridique, donc c'est pas aussi facile à attaquer qu'une association qui se serait déclarée.
Mais ça peut se faire. Mais c'est légal ?
Bien sûr. Nous sommes dans un pays libre où le fait de se réunir est libre.
Par contre, il ne faut pas qu'on soit considéré comme une association de malfaiteurs.
Non. Là, ici, on essaye de populariser la sécurité et de l'expliquer. Donc, nous sommes incontestablement une association de bienfaiteurs. Maintenant, pour demander les avantages fiscaux de l'association déclaré d'utilité publique, ben il faudrait justement qu'on se constitue en association, qu'on ait des élections démocratiques, et on pourrait solliciter des dons de nos auditeurs qui soient partiellement défiscalisés, comme c'est le cas des partis politiques.
Parce qu'en fait, le seul intérêt de créer une association, de se structurer en association, c'est dès que tu veux brasser de l'argent.
Oui.
Parce qu'il y a plein de gens qui opèrent dans des réseaux plus ou moins parallèles, enfin, je ne sais pas, IRC ou autre, et qui sont effectivement de fait des associations constituées parce qu'ils se réunissent, ils s'échangent de l'information, ils collaborent, etc. Mais en fait, tant que t'as pas besoin d'encaisser de l'argent ou de faire des dépenses, finalement, t'as pas besoin d'aller jusqu'au statut d'association, qui est quand même un peu contraignant. Enfin, je veux dire, tu dois quand même déposer des statuts, faire des assemblées générales, etc.
Mais c'est normal. Tant que tu discutes dans un canal IRC discret, et que tu manipules pas d'argent, pas de problème. Dès l'instant que tu veux manipuler de l'argent, eh ben oui, tu es obligé de déclarer des statuts avec un objectif, d'élire un bureau, le conseil d'administration c'est pas obligatoire, mais le bureau, le noyau dur, président, trésorier, secrétaire, c'est obligatoire, et c'est normal, parce que tu vas manipuler de l'argent, tu vas collecter de l'argent, tu dois être responsable devant l'autorité judiciaire de tes actions, de cet argent. Et si tu organises des réunions, tu vas devoir être assuré. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas besoin de se déclarer. Dès l'instant qu'il y a de l'argent, il y a besoin de se déclarer. Il peut y avoir aussi besoin de se déclarer avant même qu'il y ait de l'argent, lorsque tu as besoin de produire des documents. Je vais te donner un exemple. Il a existé pendant très longtemps une association de RSSI qui se réunissait tous les mois et qui n'est qui n'existait pas en tant qu'association déclarée, qui était une association de fait. C'est en plus une association dans laquelle il y a un engagement de confidentialité mutuelle entre les participants. Donc ça veut dire que tous les participants signent individuellement un engagement de confidentialité vis-à-vis de tous les autres. Le problème, c'est que pour quelqu'un qui travaille et qui est censé travailler la semaine, pouvoir justifier qu'il va passer une demi-journée à l'extérieur dans quelque chose qui n'est pas constitué officiellement, ça peut présenter des difficultés, notamment dans certains secteurs d'activité ou dans le secteur public. Et donc, au bout d'un moment, tu dois pouvoir délivrer des papiers attestant que la personne a bien participé à telle réunion. Et évidemment, tu peux pas délivrer de telles attestations tant que tu n'as pas d'existence légale. Donc, moi, je suis secrétaire dans une association, je vous rassure, je n'ai qu'un seul poste de secrétaire, je ne pourrais pas en faire plus. Et ben, en tant que secrétaire, c'est moi qui délivre les attestations. Donc, pour le club 27001, c'est moi qui fais les attestations. Oui, cette personne était bien présente à telle réunion. Et ben, bon, là, le club 27001 manipule un petit peu d'argent, donc c'est pour ça qu'il est bien sûr déclaré dans l'association. Mais même si on n'avait pas besoin de manipuler de l'argent, pour pouvoir délivrer de telles attestations, on aurait besoin d'être déclaré officiellement.
Bon, et alors, ça sert à quoi les associations quand même? Parce que comme tu dis, ça bouffe un temps infini, quoi.
Oui, mais on y trouve son intérêt. C'est-à-dire que dans une association, tu apprends de tes pairs, tu apprends parfois beaucoup plus vite qu'en restant dans ton entreprise ou en dialoguant toujours avec les mêmes collègues. Tu apprends des entreprises qui font la même chose que toi, mais différemment, autrement, avec un historique différent, donc dans un autre pays, dans une autre région, dans un autre secteur d'activité. Et donc, tu progresses. Après, tout le monde ne profite pas des associations. Il est clair que participer régulièrement à une association, pour certains, ça peut être aussi un moyen de s'échapper de la pesanteur de l'ambiance de l'entreprise et d'aller se reposer au sein d'une association.
Et puis, ça permet aussi d'échanger à plusieurs sur différents sujets, d'avoir des avis autres que des collègues, des gens qui ont un avis extérieur. Il y a aussi ce côté-là qui peut être intéressant. De bénéficier de l'expérience de gens plus expérimentés, voire étrangers, enfin voilà quoi.
Non, c'est pas seulement pour aller boire des bières et ramasser des goodies.
Alors quel type d'association on pourrait recommander à nos auditeurs? C'est en fonction de leur profil?
Ça dépend de leurs objectifs, hein, de leurs intérêts. Moi, je pense que chacun de choisir son association. Là, chacun va plutôt faire la promotion des associations auxquelles lui il a choisi d'être membre. Bon, moi, de ce point de vue-là, je veux dire, je reste indépendant. Comme vous l'avez vu, moi, j'ai tendance à être membre d'absolument toutes les associations.
Après, il y a sûrement une différence quand même entre les associations qui ne te demandent rien, comme l'OCIR où tu peux assister aux réunions de l'OCIR gratuitement, tu es juste spectateur et voilà, et d'autres associations où quand tu rentres dans l'association, il faut forcément que tu prennes des actions, des tâches à réaliser, des choses comme ça. Il y a aussi peut-être cette différence-là.
Ouais, enfin, il y a plein de différences entre les associations. Hein. Il y a aussi celles qui se réunissent en journée et celles qui se réunissent en soirée, celles qui se réunissent pour de vrai et celles qui sont en fait juste des listes de discussion, qui font des meetings sur Internet. Et tu veux, il y a un site assez 2.0 qui s'appelle meetup.com où tu peux avoir en fait toutes les réunions de tous les trucs autour de toi, quoi. Enfin, bon, évidemment, il faut que les associations aient été enregistrées leurs réunions dessus. Mais tu te rends compte que si tu veux participer à des assos, même dans des domaines liés à l'informatique, là, avec l'explosion de tout ce qui est incubateur et autres, tu peux toujours trouver à boire et à manger. Tu peux aller faire des petits déj et tu peux aller faire ton repas du soir dans des assos partout dans Paris. Quoi. Enfin, je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas deux associations identiques et qu'il y en a beaucoup qui sont... Il faut bien regarder dans quoi on met les pieds en rentrant dans une association. Enfin, je sais qu'en dehors du domaine de la sécurité informatique, j'ai fait pas mal d'associatifs et il y a à boire et à manger quand même dans l'associatif.
Il hein. faut trouver les chaussures à son pied.
Ouais, des fois, tu ramasses quand même des bons cas sociaux.
Bah, c'est le problème aussi de l'associatif avec le bénévolat, c'est que quand tu as des dossiers à traiter, des choses que tu veux faire avancer, motiver les gens par le bénévolat, c'est quand même compliqué.
Oui, et puis souvent les gens qui ont le temps d'aller à ces trucs-là, c'est les mêmes qui vont aller donner leur avis sur Doctissimo, enfin je sais pas si on peut citer des noms, il y a des très bons avis sur Doctissimo, mais ce que je veux dire c'est que tu vas discuter avec des gens que tu connais pas, qui vont t'expliquer que la vie c'est comme ci, comme ça, que dans leur entreprise ça se passe comme ça, Et puis, en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui passent leur temps à aller juste discuter avec d'autres gens dans des associations, mais qui, concrètement, ont aucune expérience de terrain ou qui t'ont balancé des trucs complètement faux juste pour se faire mousser, quoi.
Mais bien sûr, mais ça se voit tout de suite. Il y a des gens qui participent aux associations parce que au sein de l'association, ils trouvent une légitimité, une reconnaissance, ils parlent et on les écoute, alors que au sein de leur entreprise, ils sont complètement placardisés. Ça, c'est des choses que bien sûr tu vas trouver, mais enfin, c'est pas grave, tu vois tout de suite et ça passe très vite.
Ça me rappelle les conseils syndicaux des immeubles où il y a le même problème. Ceux qui ont une vie inintéressante et qui s'impliquent et qui trouvent une espèce de pouvoir, une justification.
Une très bonne comparaison.
Mais vous savez, c'est pas drôle, mais moi j'ai vécu les associations où beaucoup d'argent ont été détournés. Et là, c'est clair que tu vois des gens qui ont eu une carrière qualifiable d'entrée de gamme, qui tout d'un coup se retrouvent à un poste où ils manipulent beaucoup d'argent à la tête d'une association qui à l'époque avait beaucoup de salariés, donc des budgets, c'était en francs, mais en dizaines de millions de francs. Évidemment, la tentation de la malversation est tout à fait naturelle. Ça, c'est inévitable, hein, non. Mais c'est justement pour ça que les associations ont des structures cadrées par la loi pour réduire les risques. À partir de certains montants, je veux dire, tout est vérifié par un expert comptable. Voilà. Donc, c'est vrai qu'une association, dès qu'elle manipule beaucoup d'argent, il faut commencer à faire très attention. Il ne faut pas voter à main levée bêtement à chaque assemblée générale. Moi, j'ai souvent été pointé du doigt parce que dans énormément d'associations, je suis le seul à ne pas voter bêtement pour. À partir du moment où il y a clairement, dans un paragraphe d'un rapport moral annuel d'une association, un mensonge, il est du devoir de tous les membres de voter contre. Bon, il y a des associations qui sont listées dans les 32, dans lesquelles il y a eu parfois un mensonge éhonté au rapport moral. Le seul qui vote contre, c'est moi. Évidemment, ce sont des associations où on vote à main levée et où celui qui a osé voter contre doit immédiatement s'expliquer devant le haut comité du parti, comme dans la bonne Allemagne de l'Est. C'est assez rigolo. Mais justement, une association, c'est fait pour éviter les pipotis, pipota, rapapa et compagnie. Et donc, à chacun de s'exprimer et de profiter des assemblées générales pour lire ce qu'on lui raconte et voter contre.
Et j'ai une autre question, moi, sur pour éviter les associations un peu pourraves. Est-ce que tu pourrais nous dire si les associations qui recrutent uniquement par cooptation, où il faut remplir un site, donner son CV, une lettre de motivation, est-ce que c'est un gage de qualité ou est-ce que c'est du décorum?
Ça, c'est le Grand Orient, non?
C'est effectivement comme ça que fonctionne le Club Ebios. Moi, je ne suis pas du tout contre les associations où il y a un minimum de contrôle à l'entrée. Je suis membre de plusieurs associations où il y a ce type de contrôle à l'entrée. On va prendre un exemple très connu, la grosse association CUSIF. N'importe qui peut être membre du CUSIF, mais quand on s'inscrit au CUSIF, l'inscription passe par la validation de l'ensemble du conseil d'administration. Si le conseil d'administration a quelque chose à redire sur la qualité de la personne, quelqu'un qui se dit utilisateur alors qu'en réalité il est offreur, on va pouvoir tout de suite recadrer, requalifier. Si on a des informations qui pourraient laisser entendre que peut-être cette personne a déjà dans son passé, dans son histoire, dans ses actes, fait des choses qui contreviennent au code de déontologie de l'association, au règlement de l'association, tout membre du conseil d'administration va pouvoir le signaler. Ça, c'est une forme de contrôle à l'entrée. Bien sûr, c'est un contrôle très léger, mais c'est un contrôle qui a largement suffi à éviter à ce que des personnes qui n'ont rien à faire dans une association en sécurité puissent y entrer. Après, ben, il y a des associations. Moi, je suis par exemple membre de l'ARCSI, donc l'association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information. Nicolas aussi. Bon, ben oui, il y a un peu plus, on va dire, de contrôle à l'entrée. Il y a la lettre de motivation. Il y a, voilà. Au Club Ebios, il y a aussi tout ça. Il faut, voilà, c'est. Moi, je sais pas. Enfin, je suis pas le seul membre d'association qui fonctionne comme ça. Bon, Est-ce que ça permet d'avoir des gens plus sérieux? Ben, disons que c'est un fonctionnement différent. Ben, Nico, non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses?
C'est comme les entreprises, quand t'es une petite start-up au début, t'es hyper motivé, tu veux absolument pas faire une erreur de recrutement parce que ça peut couler ta boîte. Et puis, quand t'arrives à une certaine taille, ta boîte, le PDG, tu croises dans les couloirs des gens que t'as jamais vus et voilà, au bout d'un moment, tu as forcément des erreurs de casting. Et...
Oui, comme l'entreprise, c'est une aventure humaine, donc ce sont des ouais. hommes et des femmes entre eux.
Si tu fais rentrer un pervers manipulateur, comme on dit maintenant, dans ton assaut, t'es mal, quoi. Je crois que la bonne rédaction des statuts, c'est quand même assez important si tu veux pouvoir garder le contrôle de l'association. Bon, j'ai quelques exemples en tête, mais bon, on va pas rentrer dans les chiens écrasés de la sécurité. Mais le problème, c'est quand t'as une vraie divergence dans une association où t'as vraiment quelqu'un qui dit « Écoutez les gars, ça fait 30 ans que vous existez, mais moi j'ai envie de faire les choses autrement. » Et qu'il rallie pas mal de monde derrière lui. Qu'est-ce que tu fais, quoi?
Bah, d'abord, c'est qu'il a peut-être raison. Ensuite, il y a un vote des membres en assemblée générale. Et chacun défend sa position. Et effectivement... des gens avec des positions nouvelles peuvent gagner et être élus au sein d'une association. Maintenant, les associations qui n'ont pas un fonctionnement démocratique ou qui ont détourné la démocratie, c'est les associations à élection de liste. Une association où c'est une liste qui se présente contre une autre liste, ça rend très 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 difficile l'élection d'une liste concurrente. Or, à l'intérieur d'une même liste, les gens sont cooptés. Et donc sont toujours pareils et vont ensemble. Ça garantit un fonctionnement fluide, disons normalement plus fluide, de l'association. C'est une chose que je ne connais pas dans le monde de la sécurité personnellement, mais que je connais dans d'autres mondes. Prenez par exemple le monde du logiciel libre, qui a connu des associations avec des gens qui se sont retrouvés en prison plus tard pour avoir fusillé beaucoup de personnes dans un conseil municipal. Pour parler des brebis galeuses, hein. Avec, voilà. Et là, il y a des associations au fonctionnement très différent. Il y en a certaines où c'est des élections individuelles, comme dans toutes les associations en sécurité que je connais. Et puis, il y en a d'autres où c'est des élections de liste. Bah, c'est sûr qu'une élection de liste, c'est une manière astucieuse de contourner la démocratie directe. Maintenant, ça te permet pas, si tu as des élections qui sont pas des élections parfaitement démocratiques et secrètes, ça ne permet pas de valoriser ton association vis-à-vis de l'État, des subventions publiques, de l'obtention de statuts intéressants pour pouvoir faire de la défiscalisation de ce que tes membres cotisent ou donnent à l'association, etc.
Et ça sort peut-être un peu du sujet, mais et toi, Nicolas, en Suisse, est-ce que tu as trouvé des associations de sécurité intéressantes?
Écoute, y a des associations partout, et puis c'est le même, enfin le paysage est le même qu'en France. Hein. C'est-à-dire, t'as des associations. Ici, c'est encore plus local, parce que le système est beaucoup plus à l'allemande, avec des Länder, etc. Enfin, des cantons. Mais globalement, oui, il y a des associations partout. Il y a un chapitre de l'OWASP. Il y a des trucs un peu locaux. Il y a des trucs sectoriels. Enfin. Rien de particulier. Je pense que le même aux États-Unis, hein, tu vois. Alors pour le coup là, c'est aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'argent en jeu tout de suite et c'est pas vraiment des associations. Par exemple, tu as Silicon Valley Fuzzers, qui est, c'est pas une association, mais c'est une réunion régulière de gens qui travaillent dans le fuzzing, enfin qui ont une activité dans le fuzzing au sein de leur entreprise et qui se réunissent de temps en temps. Mais tu as beaucoup plus d'événements qui sont directement sponsorisés par les entreprises. Je sais pas, t'as OpenDNS qui fait des tech talks, enfin, quasiment tout le monde fait des tech talks où c'est à peu près ouvert, tu peux aller discuter. Mais la vision américaine est quand même très très différente. Enfin, tu vois, ils ont pas l'histoire de la loi 1900, hein, ils ont les fondations, comment ils appellent ça, 501, qui est d'ailleurs le truc sur lequel sont le WASP et toutes ces choses-là. C'est quand même tout de suite beaucoup plus énorme et il y a quand même c'est tout de suite orienté à business, enfin oui, argent, pas forcément business. Donc bon, je suis pas un expert du contexte international, mais tu vois un peu les mêmes choses se reproduire partout, quoi.
Non, mais les associations business, pour moi, ça n'a franchement rien à voir. Hein. Est-ce que le cercle de la sécurité, qui est la continuité des assises, est une association? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui a un nom et qui est organisé par une société à but lucratif. Ça n'a aucun rapport avec une association. Non, vous n'êtes pas d'accord
hein? Ah, c'est une association, mais je veux dire, je ne sais pas si tu prends le STIC, par exemple, c'est aussi une association. Il n'y a que deux personnes, le président et le trésorier, et il n'y a aucun moyen d'y rentrer, sauf si l'un des deux démissionne ou décède. Donc, est-ce que c'est une association? Ouais. Non, le statut associatif te permet de faire plein de choses en termes de numéro de SIRET, de récupérer de l'argent, etc. Mais faut bien voir qu'on y trouve de tout. Et ça va largement au-delà du domaine de la sécurité informatique, où il y a quand même déjà pas mal d'escrocs et de gens louches qui traînent. Hein, mais bon.
On les connaît.
Pas tous. Il y en a des nouveaux qui arrivent tous les jours.
Pour conclure, je pense qu'on peut conseiller à nos auditeurs de rejoindre des associations, de participer à des réunions qui sont organisées par des associations, si ça les intéresse de participer, de contribuer.
Eh ben, participer aux associations dont les membres de Nos Limites Sécu participent. Hein. Voilà, chez Nos Limites Sécu, il y a des gens au CUSIF, au Club 27001, à l'OCIR, à l'ARCSI, ben voilà, de bonnes associations.
Voilà, eh bien, on vous invite donc à rejoindre ces associations. Vous verrez, vous y trouverez des gens sympathiques et je suis sûr que vous apprendrez plein de choses. On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
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 Au revoir. Au revoir.